Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est le 13 décembre 2023. On est à 11 jours de Noël. C'est pour notre
enfant.
Déjà.
On a dit que ça va vite.
A été très, très vite cette année. On a quand même fait presque 30 bilivaux live cette année. Donc, c'est quand même des bilivaux rencontres. C'est quand même 30 rencontres qui ont été faites. Lolita vient de partir, mais elle va revenir, elle va réapparaître bientôt. Donc, bonsoir tout le monde. Bonsoir Jean-Pierre.
Bonsoir Jean-Luc, comment vas-tu?
Ça va super bien. On a Jean-Pierre Beaudoin qui est avec nous ce soir pour passer notre heure en notre compagnie. Puis, avant de débuter, j'ai quelques petites choses à vous dire. Que vous nous écoutez. D'abord, on va avoir mercredi le 20 décembre un bilivaux rencontre à peu près de 90 minutes. Il va avoir les autrices et auteurs qui vont être présents pour 2024. Ils vont venir, on va avoir à peu près entre 5 et 6 auteurs qui vont être là avec nous. Donc,
c'est un ami qui m'a coupé. Streamer même, là, m'a coupé.
Ouais.
Puis
là, comme je disais, on avait pour le prochain Béliveau Rencontre, on va avoir un spécial 90 minutes avec 5 à 6 auteurs, autrices qui vont venir faire un tour. Donc, on va vous présenter ces personnes qui vont faire l'année littéraire de janvier à peu près au mois de juin au niveau des sorties. Donc, on vous réserve des surprises. Et pour la rentrée 2024, avec la nouvelle directrice générale, Annabelle Boyer, on a cédulé les prochains Béliveau rencontres jusqu'au mois de septembre. Et je vous annonce quelque chose. Les Béliveau rencontres, depuis le début, c'était le mercredi soir. Mais avec les horaires des salons du livre, où, bien humblement, je dois partir les mercredis, parce que les salons commencent souvent du jeudi jusqu'au dimanche, on a pris la décision de mettre les Béliveau rencontres à partir de janvier 2024, le mardi soir. Donc, c'est un nouveau rendez-vous. Le mardi soir, ça va être les rencontres avec Béliveau rencontres.
Et on est très heureux.
Aux deux semaines. Puis, il va y avoir certains mois où ça va être à la semaine. Donc, on a à peu près prévu une quarantaine de rencontres l'année prochaine. Puis, ça va être très souvent à la semaine, mais on va vous en reparler. Ça va être à l'approche des importants salons du livre, comme à Québec et tout ça. Donc, on va vous en parler un peu plus au cours des prochaines semaines. Puis, je peux déjà vous dire que la semaine prochaine, la directrice générale, la nouvelle, Annabelle Boyer, va venir faire son tour. Parce qu'elle a aussi un livre qui va sortir l'année prochaine. Donc, elle va passer sur le grill, on va l'interroger.
C'est son tour.
Jean-Pierre, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît?
Avec grand plaisir. Premièrement, merci beaucoup de me recevoir. C'est un honneur d'être avec vous, Lolita et Jean-Luc. Premièrement, je suis un entrepreneur en série. Moi, depuis l'âge de 13 ans, que j'ai parti ma première entreprise et j'ai parti des dizaines d'entreprises au cours de ma carrière. Donc, j'étais un homme d'affaires qui a vagué dans le milieu de la production événementielle pendant plus de 35 ans. Donc, je suis producteur de spectacles, de festivals. Donc, j'ai produit énormément de festivals à grand déploiement avec des foules de centaines de milliers de personnes dans le milieu du spectacle. Donc, j'ai côtoyé tous les grands artistes québécois et internationaux au cours de ma carrière qui m'ont amené à vivre une vie très, très intense. Et en 2013, j'ai dû subir une opération à cœur ouvert. Et suite à tout ça, j'ai décidé de vivre une de mes passions depuis longtemps, que j'avais envie de prendre la parole par rapport au développement personnel, parce que ça fait très longtemps que je suis très intéressé par le pouvoir du subconscient, par le développement personnel. Et suite à cette opération-là, mais j'ai décidé de devenir auteur, conférencier et coach. Et depuis ce temps-là, mais je fais ça. Donc, je suis un coach haute performance qui accompagne les entrepreneurs et les gens
donner la meilleure version de même. J'ai écrit des livres. Et je suis en conférence internationale, je fais des conférences un peu partout au Québec.
On t'entend plus,
On t'entend plus.
M'entendez plus?
Oui, c'est vrai.
Désolé. Là, vous m'entendez bien?
Oui.
Désolé. Donc, comme je disais, ben, j'ai décidé de devenir coach, auteur, conférencier. Et puis, ben, j'ai ça. J'ai écrit deux livres jusqu'à ce jour. J'ai un troisième livre qui est en chemin. J'accompagne énormément d'entrepreneurs, autant ici au Québec qu'un peu partout dans la francophonie mondiale. Et je fais des tournées de conférences et au Québec et en France et en Belgique depuis maintenant plus de 7 ans. Et puis, je vis ma passion, donc j'ai pas l'impression de travailler une journée de ma vie. Je vis une vie de rêve, selon moi. Et puis, j'ai beaucoup de plaisir à faire ce que je fais. Donc, et voilà, c'est qui je suis. Donc, un entrepreneur en série qui a décidé de refaire sa vie dans un domaine qui le passionne. Je suis encore un entrepreneur, bien sûr. Je m'occupe moi-même de mes trucs. Je m'auto-produis dans tous mes tournées. Et j'ai encore une compagnie de production qui s'appelle Les Productions du Palais, qui s'occupe de certains événements et qui a
du des contrats. Du palais ou du ballet?
Du palais. D'accord, comme le grand palais et non pas le ballet de...
OK.
Combien de temps entre tes deux livres que tu as publiés?
Le premier livre que j'ai publié, c'est un livre qui est un collectif avec Joe Vitale. Joe Vital, comme ils disent en Europe. Donc, j'ai sorti ça après mon opération à cœur ouvert. Donc, il est sorti en 2014-2015. Et mon premier livre qui s'appelait « L'homme qui marche sur le feu », qui a été réédité chez Béliveau, qui s'appelle maintenant « Maîtrise tes émotions et tes peurs ». Non, mais la première édition, elle a sorti en 2016. Et la nouvelle édition est sortie au printemps 2023.
Justement, on te connaît avec... Moi, quand on m'a dit qu'on te rencontrait, on m'a dit « c'est l'homme qui marche sur le feu ». Puis dans ton livre, tu en parles. On va y revenir un peu plus tard parce que c'est vraiment très, très passionnant. C'est un bel exploit. Puis c'est même, je pense, tu as tenté un record du monde.
Oui, je me suis attaqué au record du monde... en 2018, si je ne me trompe pas. Fait que je me suis attaqué à la plus longue marche sur le feu, un record que je n'ai pas atteint, mais que j'ai beaucoup appris cette soirée-là, parce que dans la vie, moi, j'ai pour m'en dire que dans la vie, il n'y a jamais d'échec. Ou bien on apprend, ou bien on réussit. Donc, ou bien on réussit, ou bien on apprend. Donc, dans cette soirée-là, j'ai beaucoup appris sur moi, sur mes façons de fonctionner. Et ça a été une des grandes soirées de ma vie, cette soirée-là. Ouais.
Une belle révélation.
Ouais, parce que quand je fais des marches sur le feu dans mes conférences, j'ai amené plus de 15 000 personnes à faire des marches sur le feu au travers de la francophonie mondiale dans les sept dernières années. Et puis, je fais très, très attention à la sécurité de tout le monde. Et quand j'ai fait mon record du monde, j'ai pris moins soin de ma sécurité que ce que
je fais. Ma chaussée.
Exactement. Donc, il est arrivé ce qui devait arriver. Donc, mais ça a été une belle leçon d'humilité et une belle leçon de prise de conscience par rapport à tout ça. Donc, ça a été un beau cadeau de la vie, selon moi. Ouais.
Mais vu que tu en parles tout de suite de marcher sur le feu, tu dis, j'ai lu dans le livre, c'est à peu près, c'est quoi? C'est 110 degrés?
C'est 1200 degrés.
1200 degrés.
Ouais. Il manquait un zéro, Jean-Luc.
Ouais. Il manquait des zéros un peu, Jean-Luc. Ouais, fait que j'amène les gens à marcher sur des tapis de braise à plus de 1200 degrés, ouais.
C'est quoi la sensation quand tu marches? Est-ce que tu ressens la chaleur ou c'est le mental, tu te mets en condition pour pas ressentir la chaleur?
Dans le fond, moi, dans le cadre où j'amène les gens à faire ça, c'est vraiment dans le cadre d'une conférence événement qui dure plus de 4 heures. Donc, c'est vraiment où j'amène les gens à prendre conscience de leur état d'esprit, de leurs émotions, pour être capable de maîtriser leurs émotions, puisque face à un tapis de braise à 1200 degrés, tu dois être en mesure de contrôler tes émotions. Et je les amène à comprendre également comment faire pour utiliser la peur comme levier pour passer à l'action, puis comment faire pour se libérer d'une croyance limitante qui les empêche d'avancer. Puis pourquoi j'utilise le feu? Parce que le feu, ça devient une métaphore. Fait que le tapis de braise vers lequel on se dirige lors de mes événements représente l'obstacle entre où tu es et où tu veux aller, entre qui tu es et qui tu veux devenir. Et pour traverser cette métaphore, cet obstacle qui t'empêche de faire ce que tu devrais faire dans la vie pour créer ce que tu veux vraiment créer, ben, c'est tes peurs et tes croyances limitantes. Et moi, j'utilise le feu. Je pourrais utiliser plein d'autres outils. J'utilise plein d'autres outils en formation en entreprise. Mais j'utilise le feu parce que notre plus vieille croyance, depuis qu'on est très jeune, on se fait dire « ne touche pas au feu, tu vas te brûler ». Depuis qu'on est tout petit, on se fait dire « ne touche pas au feu, on va te brûler ». Et pour nous, le feu, ben, c'est la peur de la guerre, de la destruction. Donc, c'est très, très ancré profondément à l'intérieur de nous. Donc, j'invite les gens, durant la conférence, à comprendre tout ça. Et oui, c'est beaucoup une question de contrôle mental, de pouvoir de nos pensées, de nos croyances, qui peut nous permettre de faire des choses comme ça. Et à la fin de la conférence, ben, j'amène les gens vraiment à expérimenter les leçons, les stratégies que je leur ai partagées durant la soirée. Donc, ce que je trouve très intéressant, moi, je crois beaucoup à l'apprentissage par l'expérience. Donc, j'amène les gens à comprendre comment tout ça fonctionne, mais à la fin de la conférence, je les amène à mettre en application les enseignements qu'ils ont appris durant la soirée. Donc, c'est quelque chose de très puissant que j'ai un plaisir fou à faire.
Parce en as-tu qui reculent à la dernière minute, qui ne sont pas capables de...
Mais c'est assez surprenant parce que quand les gens viennent, 50% des gens qui arrivent à la conférence disent ne pas vouloir marcher faire la marche sur le feu. Et c'est OK parce que personne n'est obligé. Et c'est beaucoup de contenu dans la conférence. Là. C'est 4 heures de conférence, donc il y a beaucoup de contenu au niveau des émotions, du mindset, des croyances, des peurs. Et c'est correct que les gens viennent pour ça. Mais 50% des gens qui disent au début de la conférence ne pas vouloir marcher sur le tapis de braise à la fin, 99% des gens le font à la fin de la conférence. Ils désirent le faire à la fin. Une fois qu'ils ont compris, que j'ai expliqué, qu'ils sont dans le bon état d'esprit, mais ils désirent le faire. Donc, moi, c'est toujours la chose qui m'impressionne beaucoup, c'est de voir les gens qui arrivent là en disant « Non, non, mais c'est impossible, je ne le ferai pas, c'est totalement con, ça n'a pas aucun sens pour moi. » Et qui, après ça, comprend le processus et comprend la force du processus et décide de le faire. Et puis ça, mais je trouve ça très intéressant. Donc, pour répondre à ta question, il y a à peu près 1% des gens qui ne le font pas à la fin des conférences.
C'est vraiment impressionnant. Puis, ouais. On va passer un peu aux internautes. Je rappelle que les personnes qui nous écoutent actuellement en direct peuvent poser leurs questions à Jean-Pierre Beaudoin. D'ailleurs, il y a déjà Jean qui est là régulièrement, qui nous dit bonsoir. Il y a Cynthia Taillon aussi qui est présente. Et dans les personnes qui nous regardent, il y a Martin Ducharme qui avait le sixième sens qu'on a reçu il y a 15 jours avec Carole
Pichet,
qui nous regarde actuellement, puis on salue Martin. Il y a Mélanie Groux aussi qui est là, donc on la salue, puis posez vos questions à Jean-Pierre, ça va faire un plaisir. Mireille Bernier qui est là aussi, d'ailleurs.
Mireille, c'est une fidèle aussi, ça.
C'est une fidèle. Jean-Pierre, dans ton livre, dans ton introduction, tu parles comme quoi qu'on est responsable de sa santé ainsi que de la qualité de relation qu'on entretient et qu'on vit au quotidien. Tu dis qu'à 13 ans, il y a eu la mort de ton père.
Ouais.
Et que là, tu as eu très mal et tu as commencé à consommer de la marijuana. Ouais. Tu en parles ouvertement. Ouais. Tu parles aussi comme quoi que tu as bu de l'alcool régulièrement, que tu as consommé de la cocaïne socialement. Puis, tu as été workaholic. Donc, tu t'es lancé complètement à corps et âme perdu dans le travail.
Ouais.
Et que c'était pour t'occuper l'esprit et te fuir la réalité pour pas trop réfléchir.
Ouais.
Avec le recul, comment tu vois cette période? Parce que tu dis aussi dans le livre que tu as profité de la vie.
Énormément. Je suis un bon vivant. Je suis un très bon vivant. Non, mais ce qui est arrivé dans tout ça, c'est comme j'expliquais, moi, je viens d'une très bonne famille. J'ai été élevé dans la Watt avec une famille aisée. J'avais tout ce que j'avais besoin quand j'étais jeune. Et mon père est décédé quand j'avais 13 ans d'un cancer. Je l'ai vu dépérir pendant 2 ans, passer de... C'était un homme 6 pieds 2, 225 livres, en pleine forme, descendre à 113 livres, plus capable de parler. Bon, ça a été très dur et... Puis c'était mon meilleur ami, mon idole, mon mentor. C'est un homme d'affaires qui réussissait énormément. Et ça m'a vraiment très bouleversé. Puis mon père était très, très croyant. Et quand il est décédé, pour moi, ça l'a fait comme, OK, mais quel genre de bon Dieu peut enlever son père, son idole, son meilleur ami à un enfant de 13 ans, un adolescent de 13 ans. Et je me suis donné un rôle de victime à ce moment-là. Pauvre moi, j'ai perdu mon père. Et ça l'a teinté ma vie pendant 35 ans. Donc, j'ai donné un sens négatif à cet événement-là qui m'est arrivé. Et je me suis conté une histoire qui était « Pauvre moi, j'ai perdu mon père ». Et je me racontais aussi l'histoire que j'étais pour mourir comme lui à 47 ans, donc jeune. Donc, les gens qui me posaient la question « Pourquoi tu vis à 100 à l'heure comme je vivais à 100 à l'heure? » Mais je disais « C'est parce que je vais mourir jeune comme mon père, donc je dois vivre rapidement. » Mais avec le recul... Mais avec le recul, je me rends compte que je faisais ça pour fuir mes émotions, pour ne pas faire face à mes émotions, pour ne pas ressentir toute cette peine-là. Donc, c'est de cette façon-là que j'ai consommé de l'alcool, de la drogue, puis j'ai travaillé très fort en partant des dizaines d'entreprises. J'ai eu jusqu'à 200 employés, j'ai tourné des millions de dollars de chiffre d'affaires par année. J'ai très bien réussi dans la vie, mais...
Ma force de ne pas vouloir ressentir, Jean-Pierre, là, quand ta valve, elle a pété, là, ta valve d'émotion, là, t'as dû t'écraser, puis pas rien qu'un peu, là.
Ben, je suis mort sur une table d'opération.
Ben, c'est ça, là.
Ouais, ben ça, on va en parler après, Lolita, parce qu'on parle de la mort imminente et tout ça.
Ouais, que... avant de se rendre là, juste pour... dans le fond, j'ai gelé mes émotions pour ne pas faire face à tout ça. Et je me suis raconté l'histoire que j'étais pour mourir jeune, et j'ai créé ça. Donc, je me suis autodétruit sur le chemin de ma vie. Donc, j'ai très bien réussi dans la vie, mais j'ai vraiment pas réussi ma vie. J'étais une merde. Non, j'étais une merde. J'étais une merde dans le sens que j'étais heureux parce que j'étais toujours à la fête. J'étais le mec qui invitait tout le monde à la fête de Formule 1 dans le party privé de la liberté du Cirque du Soleil, toujours dans les suites au Centre Bell, etc., etc. Donc, j'avais toujours accès à tous les lancements des nouveaux spectacles et tout ça, vu que je venais du milieu du spectacle. Donc, j'étais entouré toujours de plein de gens parce que j'étais une personne connue, j'étais une personne, puis je payais tout, j'invitais les gens. Mais ces gens-là, c'est pas des vrais gens qui apprécient vraiment qui nous sommes. Et ça, mais je m'en suis rendu compte par après. Donc, on se nourrit de...
D'illusions.
De choses très, très illusions. Ouais, c'est beaucoup d'illusions. Et, mais la vie m'a rattrapé. Donc, j'ai gelé mes émotions. Je voulais pas faire face à tout ça. J'ai travaillé très fort pour ne pas faire face à tout ça. J'ai réussi ma vie, mais j'ai pas réussi la mienne. J'étais incapable d'avoir une relation stable avec des femmes. Dès que ça devenait trop sérieux, je me sauvais parce que je voulais pas embarquer dans l'émotionnel. Mais la vie m'a joué un tour. Et il m'a donné le plus beau cadeau de ma vie. En 2013, je me suis réveillé au Costa Rica parce que j'ai eu des entreprises au Costa Rica et tout ça pendant des années. Et j'avais un condominium là-bas. Je me suis réveillé un matin face sur la mer. J'étais assis puis j'avais un problème avec un œil. Et je comprenais pas trop ce qui se passait. Et j'ai mis des gouttes en attendant. Comme tout homme qui se respecte, il n'y a rien là, ça va passer. Et puis je suis revenu au Québec et là, je voulais pas vraiment aller à l'hôpital. Parce que je disais toujours, j'étais trop occupé, j'ai pas le temps d'aller à l'hôpital. Et là, ma blonde m'a forcé à aller là-bas. Et puis, on a découvert à ce moment-là que j'avais des problèmes avec l'œil. Il y avait des choses qui étaient prises dans mon œil. Et là, on a commencé à me passer une batterie de tests. Ça a duré 3 mois. Et pour me faire dire, le 2 juillet 2013, par mon médecin, qu'il me restait 3 à 6 mois à vivre. Donc, c'est un wake-up call que la vie m'a fait. Ce qui est le plus beau cadeau que j'ai jamais eu de ma vie. Donc, mais quand on se fait dire qu'il nous reste 3 à 6 mois à vivre, tout se déroule hyper rapidement. On a rapidement un choix à faire, c'est-à-dire, est-ce qu'on a envie de mourir ou vivre? Puis à quelque part, moi, toute ma vie, je m'étais raconté l'histoire que j'étais pour mourir à 47 ans comme mon père.
Ça te rattrapait, là.
Oui. Puis quand je me suis fait dire qu'il me restait 3 à 6 mois à vivre, j'avais 47 ans. Ouf. Donc, on devient toujours l'histoire qu'on se raconte. Mm-hmm. Fait qu'il faut faire très attention parce que l'histoire qu'on se raconte, on la crée. Fait que moi, je me suis auto-détruit durant toutes ces années-là pour arriver au bout puis me faire dire que je vais mourir. Et là, ce moment-là, la plus belle chose qui m'est arrivée, c'est quand mon père est décédé, je me suis donné un rôle de victime et j'ai vu ça de façon négative. Mais quand je me suis fait dire qu'il me restait 3 à 6 mois à vivre, ça a été instinctif puis j'ai fait « Non, je vais vivre ». Et pour moi, c'était non négociable et j'étais convaincu au plus profond de moi-même que j'étais pour vivre. Et j'ai dit merci à la vie de me donner ce wake-up call-là. Et là, j'ai dû subir une opération à cœur ouvert. Et, Et ça a été un moment très particulier parce que l'opération devait durer 3 heures. Elle a duré 9 heures. Il y a eu beaucoup de complications. Je suis décédé sur la table d'opération. J'ai vécu une expérience de mort imminente. Donc, je suis sorti de mon corps. Je suis allé à la rencontre de mon père. Et c'est drôle parce que là, je raconte ça, puis je suis très à l'aise de le raconter.
Ah oui, oui?
Mais ça m'a pris beaucoup de temps à être à l'aise de raconter ça. Parce que après, quand je suis sorti, quand je suis revenu, puis je me suis réveillé suite à mon opération, tu te poses la question, qu'est-ce qui s'est passé? Et tu te demandes comment expliquer ça aux gens, parce que les mots que je... Il n'y a aucun mot qui peut expliquer ce que l'on vit dans une, situation, dans une situation comme ça.
Il faut le vivre.
Oui, puis ça a pris un certain temps que je prenne confiance et... pas confiance, que je me donne le droit. Que je me donne le droit de l'expliquer. Et là, maintenant, je suis à l'aise de l'expliquer. J'ai même écrit un chapitre complet dans la réédition de mon livre sur ça. Mais tout change. Après tout ça, quand je suis revenu, parce que bien sûr, je suis revenu, je suis ici avec vous ce soir, et j'étais tellement rempli de gratitude d'avoir une deuxième chance. Donc, la vie m'a donné un wake-up call et m'a donné une deuxième chance. Et
là, parce que tes proches ont vu... On trouvait que tu avais changé. On trouvait que tu avais une approche différente. On trouvait que la métamorphose, est-ce que tu te le fais dire plusieurs fois après ou encore aujourd'hui, on te le fait remarquer?
Non, j'ai complètement changé. J'ai complètement changé parce que premièrement, tout mon monde qui est alentour de moi est disparu. Donc, tous les gens que je côtoyais qui étaient là parce que j'étais la personne connue qui était toujours dans tous les lancements, qui consommait, qui payait les soupers, qui payait les trucs... Mais cette personne-là ne consomme plus parce qu'après une opération cœur ouvert, tu arrêtes de consommer. Tu n'as pas le choix, c'est fini. Donc, j'ai vendu la plupart de mes entreprises. Mes meilleurs amis ne sont plus là. Mes partenaires d'affaires qui étaient là pour les bonnes raisons ne sont plus là. Donc, le monde autour de moi s'est désintégré. Puis, aucun regret de ça. Puis, je suis pas mal à l'aise par rapport à ça. Puis, c'est OK. Puis, les gens, il y a plein de gens là-dedans qui étaient des très bonnes personnes, mais qui n'avaient plus les mêmes valeurs que moi. Donc, mes valeurs à moi ont. Je suis revenu à mes valeurs de base parce que je me suis rendu compte avec le temps que les valeurs qui sont venues suite à tout ça étaient mes vraies valeurs quand j'étais jeune avec mon père décède.
Apprise avec ta famille.
Oui. Quand j'ai perdu ces valeurs-là sur le chemin qui a été difficile et où je me suis perdu dans la drogue, dans l'alcoolisme, dans le travail. Donc, mais après ça, tu retrouves la vraie identité qu'on est. Puis c'est important de comprendre que à la base, notre réelle identité, elle est toujours là. Et la bonne version de nous-mêmes, elle est toujours à l'intérieur de nous. Il s'agit des fois, on l'échappe puis on la perd, mais on peut toujours y revenir. Puis moi, je suis revenu là. Puis oui, j'ai complètement changé. Le premier, je ne consomme plus du tout. Et j'ai passé de l'homme d'affaires qui travaillait comme un fou pour faire des trucs très impressionnants à venir vivre de ma passion, qui est de partager aux gens des enseignements, parce que je me suis donné comme mission suite à mon opération à travailler à chaque jour, à donner une meilleure version de moi-même et d'aider les gens à donner une meilleure version d'eux-mêmes. Fait que, puis au début, je me suis dit, si je peux aider une personne à donner une meilleure version d'elle-même, si je peux toucher une personne avec mon message, je vais être content. Et puis ben là, ça fait il y a des centaines et des centaines de personnes qui m'écrivent régulièrement pour qui j'ai pu partager mon histoire, mes enseignements, puis que ça a fait une différence. Et ça, pour moi, ça n'a aucun prix.
On va passer un peu aux questions des internautes. Il y a Mélanie Grou qui dit « J'ai fait la conférence à GP et la marche sur le feu. » Et effectivement, c'est très puissant.
Oui, Mélanie. Je connais Mélanie. Je me souviens de Mélanie très bien. C'est drôle parce que souvent, les gens, des fois, on est dans le jugement. Hein? Fait qu'il y a beaucoup de gens qui jugent ce que je fais. Et c'est OK parce que l'être humain est souvent dans le jugement. Et les conférences avec la marche sur le feu, il y a des gens qui trouvent ça un peu bizarre, un peu weirdo, un peu outside the box, comme on dit en bon québécois. Mais c'est quelque chose de très, 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 qui amène les gens à se connecter vraiment à l'intérieur d'eux. Puis ça a beaucoup d'impact dans la vie des gens parce que moi, je crois beaucoup, comme j'ai dit tout à l'heure, J'ai été formé pour ça au Firewalking Center en Californie par mon mentor Tolly Burken, qui, parenthèse, Tolly Burken, qui m'a formé en Californie, qui a formé Tony Robbins en 82, qui a formé T.R. Baker, qui a écrit le livre L'Esprit millionnaire. C'est un homme extraordinaire qui est mon mentor. je crois beaucoup à l'apprentissage par l'expérience. Moi, je crois beaucoup que pour maîtriser quelque chose, on doit passer par trois niveaux. Donc, au niveau intellectuel, donc, dans mes conférences, je partage des astuces, du contenu, des stratégies pour comprendre comment on peut gérer nos émotions, comment on peut être dans le meilleur mindset possible, comment on peut faire pour se débarrasser de vieilles croyances qui nous limitent, comment on peut faire pour utiliser la peur comme levier au lieu d'être une victime face à la peur. Fait que donc, on travaille au niveau intellectuel, mais après ça, il faut travailler au niveau émotionnel. Donc, il faut se laisser aller au niveau émotionnel pour aller au profond de nous-mêmes puis vivre ces choses-là de façon intense. Et puis, dans mes conférences, il y a beaucoup de musique, on danse, on bouge et ça a beaucoup d'impact. Et après ça, il faut travailler au niveau physique. Et quand on travaille à ces trois niveaux-là, puis on arrive au niveau physique, puis on vit quelque chose de concret, on vient intégrer tout ça à l'intérieur de nous. Et après l'avoir fait, ça fait partie de notre identité. Et moi, je vois des gens qui viennent vivre cette conférence-là avec moi, c'est ma conférence signature, et qui en sorte, j'aime pas le mot transformer, mais...
Grandi?
Ouais, grandi, mais surtout des prises de conscience profondes qui sont prises par ces gens-là, parce qu'ils osent faire un premier pas, c'est vraiment le cas, parce que dans une marche sur le feu, le plus difficile, c'est le premier pas. Parce qu'une fois que tu as fait le premier, c'est sûr que tu fais les autres, parce que tu veux sortir du tapis de braise.
Tu fais très, très vite.
Parce qu'une fois que tu as fait le premier, tu veux te rendre à l'autre bout. Tu n'arrêtes pas après un pas.
T'es combien de mètres le tapis de feu?
Ben, c'est à peu près 4, les gens font à peu près 4 à 5 pas. Quand ils viennent pour les premières formations, le public, où il y a des centaines de personnes, quand on fait des formations à plus haut niveau, on rallonge le tapis, mais normalement, c'est 4 à 5 pas. Donc, c'est une 15 à 20 pieds en québécois. Puis en Europe, Jean-Luc, tu pourrais me le dire en mètres, c'est 15 à 20 pieds en mètres, ça doit faire 3 à 4 mètres.
3 à 4 mètres, oui, à peu près.
Oui, à peu près.
Ouais. Donc ce que je trouve intéressant, quand, puis Mélanie, je l'ai rencontrée, puis les gens, souvent, ça leur donne une espèce de puissance d'oser, parce qu'il y a des gens qui sortent de là et disent « Oh putain, comme dirait Jean-Luc, j'ai marché sur un tapis de braise, quoi d'autre je peux me permettre de faire? » Puis moi, je dis toujours au monde, ramenez-vous au moment où vous étiez devant ce tapis de braise et dans quel état d'esprit vous étiez, dans quelle façon vous contrôliez vos peurs et vos croyances limitantes qui vous ont permis de faire le premier pas. Puis quand vous arrivez devant une petite épreuve dans votre vie, ramenez-vous dans cet état-là et boum, tu vas passer à l'action. Là. Fait que c'est une question de changer nos vieux schémas, de nos vieux patterns qui nous empêchent de passer à l'action. Et je pense que, veux pas, c'est quelque chose qui marque l'imaginaire, qui marque le corps, parce qu'on fait quelque chose de très physique. Et puis c'est toujours de toute beauté de voir l'impact que ça peut avoir pour les gens. Puis comme je disais tantôt, moi, je me suis toujours dit, je peux avoir un impact dans la vie d'une personne, je serais un homme heureux. Puis là, mais je le vois par centaines à toutes les fois que je fais des conférences et c'est merveilleux de voir ça. Mais dans le fond, puis c'est pas moi qui amène les gens à prendre des prises de conscience, c'est ces gens-là qui prennent une prise de conscience. Moi, je change pas personne. J'ai pas aucun pouvoir pour changer personne. La plus belle chose que j'aime voir, c'est voir les gens qui prennent conscience de leur pouvoir, qui prennent conscience de leurs ressources intérieures extraordinaires qu'ils ont, qui peuvent leur permettre de marcher sur un tapis de braise à 1200 degrés. Si tu réussis à contrôler tes émotions, tes peurs et tes croyances et marcher sur un tapis de braise à 1200 degrés, quoi d'autre peux-tu faire dans ta vie? Et quand on parlait tout à l'heure de l'ITA, 50% des gens qui viennent à ma conférence disent ne pas vouloir le faire au début. Puis je vois souvent des gens qui disent « Non, non, mais moi, ça ne m'intéresse pas du tout. C'est n'importe quoi. C'est impossible. On ne peut pas marcher sur le feu. » Et qu'à la fin, ils le font. Et là, je vais parler avec ces gens-là. Puis c'est les gens avec qui j'aime le mieux parler à la fin. Ça me fait rire de parler à ces gens-là. Je dis, OK, tu pensais que c'était impossible. Tu l'as fait. Et là, finalement, tu t'es rendu compte que c'est possible. C'est même facile. Parce que c'est facile, finalement. Mais genre, okay, quoi d'autre dans ta vie tu t'empêches de faire parce que tu crois et tu penses
que c'est capable.
Parce que tu crois que c'est impossible. Donc, que tu crois que quelque chose est possible ou impossible, tu as raison dans les deux cas. Tu ne feras jamais des actions inspirées qui vont te permettre de réussir quelque chose si tu crois que c'est impossible.
C'est impossible, oui, tout à fait. Ouais.
Dans le livre, on sent... Je vais un peu revenir un peu à quelques instants en arrière, Jean-Pierre.
Ouais.
On sent quand même l'influence de tes parents. Elle est très présente dans le livre. Autant ta mère que ton père, ça a été des piliers pour toi. Ta mère qui a décidé de rester, qui n'a pas été travailler à l'extérieur, tu l'expliques. Ton père, pour qui tu avais aussi une admiration. On sent quand même que pour toi, ça a été une influence très, très forte. Est-ce qu'encore aujourd'hui, pour toi, c'est des modèles à suivre? C'est des personnes qui... parce que tu dis que tu as, avec ton père, de mémoire, c'est qu'il t'a laissé quand même un héritage spirituel aussi.
Oui, clairement. Ouais. C'est mes deux piliers, ma mère et mon père. Ma mère qui est encore en pleine forme à 87 ans. J'ai justement été avec elle hier soir avant mon départ. Et c'est une femme incroyable et qui est une femme hyper importante, hyper forte, qui m'amène beaucoup de force. Et mon père également qui m'a laissé beaucoup de choses au niveau spirituel, mais au niveau... Mon père est un très grand homme d'affaires qui a développé des très grandes entreprises. Et mais c'est un homme très profond et un homme profondément bon. Et j'ai beaucoup appris de lui. Et j'y apprends encore de lui parce que je m'informe souvent. Puis il y a beaucoup de gens qui me parlent encore de lui parce que c'est un homme qui a marqué la région ici où je vis. Et puis je m'inspire encore de lui. Puis, tu sais, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans mon expérience de mort imminente, j'ai voyagé, j'ai vu mon père. Et puis, mais j'ai toujours cru que j'avais une espèce de contact avec mon père malgré sa mort quand j'avais 13 ans. Et maintenant, j'en suis convaincu parce que j'ai compris que la mort n'était pas une fin, mais bien une continuité. Et maintenant, mais je ressens très fortement les intuitions que j'ai besoin, qui j'ai l'impression sont des messages que mon père me partage. Et pour ça, c'est très important, mais aussi que c'est important. Puis Jean-Luc, c'est peut-être ça que tu voulais en venir, mais mon père, quand j'étais très jeune, il m'a inculqué très, très jeune... Le pouvoir du subconscient. Donc, il m'a fait lire le livre de Joseph Murphy, Le pouvoir du subconscient, quand j'avais 10 ou 11 ans. Donc, c'est un des premiers livres que j'ai lu sur le développement personnel. Et puis, à ce moment-là, on a fait des tests ensemble. Donc, il me parlait du pouvoir du subconscient et tout ça. Et pour certains domaines où j'avais plus de difficultés à l'école, donc, on enregistrait mes leçons que je devais apprendre par rapport à une matière X, Y, Z de l'école. Et il me faisait jouer ça sur des cassettes, des petites cassettes 4 pistes. Ceux qui sont assez vieux connaissent là-dedans.
On connaît ça.
Ouais. Et il me faisait jouer. Quand je m'endormais, il venait partir ça, puis il faisait jouer ça pendant que je dormais. Et j'ai vu mes notes faire ça dans ces domaines-là. Fait que mon subconscient, il captait tout ça pendant mon sommeil. Et ça, pour moi, ça a été très important. Parce que mon père, il m'a expliqué que tout ce que l'on voit, on lit, on entend, tout est à l'intérieur de nous, dans notre subconscient. On a tout capté. Il faut juste faire confiance qu'on est capable d'aller le rechercher à n'importe quel moment. Et puis ça, je l'ai vécu avec lui de façon très réelle, avec cette expérience-là qui m'a fait vivre 2 ans avant sa mort. Et après ça, moi, je suis allé, j'ai eu des problèmes au niveau de mon cégep après la mort de mon père. J'étais un peu plus bum, un peu plus tannant à l'école et tout ça. Fait que j'ai pas eu des super bonnes notes. Et à un moment donné, j'ai décidé de devenir avocat. Et tout le monde me disait, tu réussiras jamais à devenir avocat. Puis moi, quand les gens me disent que ça marchera, tu réussiras pas, je fais comme, ouais, okay, c'est le défi.
Tu marcheras pas sur le feu, ouais.
Ouais, c'est ça. C'est le défi que je veux relever. Puis j'ai réussi à rentrer à l'école de droit par la porte d'en arrière. Mais l'affaire la plus importante dans cette histoire-là, c'est que je me suis dit, OK, j'ai pas les notes, mais je sais que j'ai toutes les capacités de devenir un avocat. Et je me suis servi des leçons de mon père en disant, OK, je vais à tous les cours, je suis toujours présent et j'écoute tout ce qui se dit, je lis tout ce que je suis posé de lire. Et là, je me suis dit, mais j'ai tout à l'intérieur de moi. Donc, quand j'arrivais à mes examens, j'étais dans un état d'esprit où j'étais convaincu que toutes les réponses étaient dans ma tête. Il s'agissait juste que je sois convaincu et sûr de moi pour les laisser ressortir. Et ça a fonctionné. Et pour moi, ça a été... Ça s'est venu réapprouver ce que j'avais appris à l'âge de 10-11 ans avec mon père, qui est que si tu es vraiment attentif et que tu laisses les choses venir à l'intérieur de toi, puis que surtout, tu crois profondément que tu as le pouvoir d'aller rechercher toutes ces informations-là, ils sont tous là. Et ça, comprendre ça, pour moi, c'est quelque chose qui a changé ma vie, parce que présentement, je suis toujours, quand je fais des conférences, je suis toujours en confiance du fait que tout ce que j'ai à dire est toujours à l'intérieur de moi. Ouais. Donc, c'est juste que je reste calme et que tout ça va revenir quand j'en ai vraiment besoin au bon moment. Et ça, mais c'est tellement...
C'est une belle valeur.
Ouais, moi, je trouve ça super beau. Et savoir que c'est mon père qui m'a partagé ça, dans le fond, à l'âge de 10-11 ans, ben, j'en parle et ça me touche. Là. Ouais.
Puis, il y a eu ton wake-up call. Puis après, tu t'es fixé quand tu as repris du mieux, quand tu as dit « moi, je décide de vivre ouais. ». Tu t'es fixé trois objectifs très clairs.
Ouais.
Et le premier, ça a été « devenir auteur
ouais. ».
C'était vraiment, c'était ce que tu voulais depuis longtemps. C'était un rêve pour toi, c'était…
Non, pas à ce moment-là. Dans le fond, suite à mon opération… Ben, j'ai amené toute ma famille au Costa Rica, parce que moi, je vais au Costa Rica depuis plus de 30 ans à chaque hiver, 3-6 mois par année, je vis au Costa Rica. Et je pars demain matin, puis j'ai très hâte. Et puis, j'avais amené ma famille après mon opération là-bas, puis après ça, ils sont repartis, puis je suis resté seul là-bas. Et je me posais la question, après mon opération à cœur ouvert, j'étais un peu perdu, je fais quoi? J'étais l'homme d'affaires qui était... à la télé, dans les journaux, qui était très connu, qui était de tous les fêtes, tous les lancements et tout ça, puis c'était plus ça que je voulais. Mais qu'est-ce que je faisais? J'avais vendu la plupart de mes entreprises. Je fais quoi? Je sais pas. J'avais de la liberté de pouvoir me poser les questions. Et suite à ça, je suis tombé sur une publicité sur mon balcon au Costa Rica, le même balcon où j'ai eu mon problème d'œil. Et je suis tombé sur une publicité de Tony Robbins. Et je voyais un événement qui se tenait un mois plus tard en Floride qui s'appelait Unleash the Power Within. Et je me suis inscrit sur un coup de...
Un coup de tête, un coup d'inspiration?
Ouais, un coup d'inspiration plus qu'un coup de tête. Je sentais profondément que je devais m'inscrire. Et je suis allé là-bas. Hein?
Ça t'appelait?
Ouais, ça m'a appelé vraiment fortement. Et je suis allé. Et pendant que j'étais là-bas, il y a deux choses qui s'est passées. La première chose, c'est une fois durant la conférence, puis on était comme 3 ou 4 000 personnes, donc il y avait beaucoup de gens. Et Tony Robbins, il a dit « What if life was not happening to you, but for you? Even the worst part of your life. » En français, c'est « Et si la vie ne t'arrivait pas à toi, mais... » Non, si la vie ne t'arrivait pas à toi, mais pour toi, même les pires épreuves de ta vie. Pour moi, quand il a dit ça, sérieusement, j'ai vraiment eu l'impression... que tout le restant de la salle n'était pas là, qui parlait juste à moi. C'était mon message. Et moi, c'était comme une claque en pleine face, là, une gifle. C'est comme, ah, OK. Fait que là, j'ai fait comme, OK, tout ce qui m'est arrivé ne n'est pas arrivé à moi, c'est arrivé pour moi. Et moi ça a complètement changé ma vie. Là, parce que moi, j'avais comme, tout ce qui vient de m'arriver là, ça m'est arrivé pour moi, mais tout ce qui m'arrive à tous les jours m'arrive pour moi. Donc, moi, je suis dans la mentalité maintenant que tout ce que la vie met sur mon chemin, c'est des cadeaux. C'est des cadeaux de Noël. Donc, dès qu'il m'arrive quelque chose de négatif, je fais comme, OK, quel cadeau va venir suite à ça? Il y a toujours quelque chose de plus beau qui arrive. Comme moi, il m'est arrivé, il te reste 3-6 mois à vivre, mais après ça, il m'est arrivé, je reviens en vie, puis je vis ma passion. Donc, c'est extraordinaire. Ça a été le premier message qui m'a vraiment changé. Puis pendant ce week-end-là, on devait se fixer 3 objectifs. C'est là que je me suis fait l'objectif de devenir un auteur à succès. Puis pourquoi j'ai décidé de devenir un auteur à succès? J'avais jamais pensé de ma vie devenir un auteur à succès. Mais dans mon thinking ce soir-là, quand j'ai écrit ça, j'ai dit « OK, je vais devenir un auteur à succès dans les 4 prochains mois. » Après ça, le deuxième objectif, c'est de devenir coach haute performance dans les 2 prochaines années puis devenir conférencier international dans les 3 prochaines années, quelque chose comme ça. Puis pour moi, c'était, si je deviens un auteur à succès, ça va me donner la crédibilité pour devenir un coach haute performance. Puis le coach haute performance va me donner la crédibilité de devenir un conférencier international. C'était ça dans ma tête, le pourquoi qui était fort. Et le pourquoi du devenir un auteur à succès était excessivement fort parce que je me disais, c'est ça qui va me permettre d'avoir la crédibilité de lancer ma nouvelle carrière. Mais j'avais aucune idée. Puis quand je suis revenu au Québec, puis j'ai annoncé ça à ma blonde, comme on dit à mon Québécois.
C'est la prochaine question.
Ma blonde a fait comme, ben là, tu sais pas écrire. Moi, je fais encore des fautes dans mes courriels. Là. Je suis pas un écrivain, loin de là. Et tout le monde me disait, mais tu y arriveras jamais, c'est impossible. Mais j'avais aucune idée comment j'y arriverais. La seule chose que je savais, c'est que j'avais un objectif qui était très, très précis, délimité dans le temps. Et je savais pourquoi, mais tellement de façon puissante que j'ai trouvé, la vie a mis sur mon chemin quelque chose.
Donc, tu y es pris comment?
Ben, c'est ça l'histoire la plus belle, c'est que la vie met sur notre chemin les choses qu'on a besoin au moment quand on y croit vraiment et qu'on en a vraiment besoin. Donc, qui connaît Joe Vitale? Joe Vitale qui était dans le film et le livre Le Secret, le spécialiste de la loi d'attraction. Moi, je suivais Joe Vitale depuis des années avec ses newsletters et tout ça. J'avais lu ses livres et tout ça. Et puis,
je recevais des courriels de lui, des newsletters, mais lui, il en envoie tellement, ça n'a aucun sens. Là. Des fois, il peut en envoyer 3-4 dans la même journée, ça n'a aucun sens. Donc, tu n'ouvres pas tout, mais je ne me suis jamais désabonné. Puis des fois, j'ouvrais certains courriels. Et là, j'étais revenu de là-bas, puis je me disais, comment je vais m'y prendre? Je ne sais pas, il faut que je trouve le moyen. Puis là, je me disais, OK, je me connectais pour essayer de trouver la bonne façon. Et je suis tombé sur un courriel de Joe Vitale que j'ai ouvert. Et je ne sais pas pourquoi j'ai ouvert lui. Et dans ce courriel-là, il expliquait qu'il voulait redonner à la communauté et qu'il voulait accompagner 20 auteurs pour leur montrer comment devenir des best-selling auteurs. Pour comment devenir des auteurs à succès. Ouais. Et là, qu'est-ce qu'on devait faire? Parce que c'est beau d'avoir l'opportunité qui se présente, mais si tu passes par l'action, il n'y a rien qui se passe. Donc, c'est beau. Donc, il fallait écrire à Joe Vitale, en anglais, bien sûr, pour lui dire c'était quoi pour moi la loi de l'attraction et pourquoi il devait me choisir. Donc, j'ai pris un papier de crayon, j'ai écrit en anglais à Joe Vitale. J'ai écrit mieux en anglais qu'en français. C'est moins compliqué, toutes les règles sont moins compliquées. Donc, j'ai écrit à Joe Vitale pour lui expliquer que ma vision de la loi d'attraction, en comptant mon histoire et pourquoi il devait me choisir, puis dans la façon que je lui ai raconté tout ça, en lui disant, mais tu dois absolument me choisir parce que si c'est pas avec toi, je vais devenir un best-selling auteur. Donc, tu serais mieux de me choisir. Fait que, c'est drôle parce que c'est un peu mon approche. C'est un peu comme ça aussi. J'ai commencé mon baccalauréat en droit. Je suis rentré par la porte d'en arrière parce que je suis allé voir le doyen. Puis je suis arrivé en disant, choisis-moi, je vais devenir le meilleur avocat au Canada. Si tu ne me choisis pas, tu vas le regretter. Donc, c'est un peu baveux, un peu arrogant, mais on a le respect. Fait que c'est un peu comme ça que j'avais écrit à Joe Vitale. Et j'envoie ma lettre à Joe Vitale. Et 3 semaines plus tard, le téléphone sonne. Je réponds, oui, allô? Allô, Jean-Pierre? It's Joe Vitale.
Ton idole t'appelle, c'est pas n'importe quoi, hein?
Non. Puis là, il me dit, hey, j'ai lu ton histoire, tu m'as fait beaucoup rire, je t'ai trouvé baveux, mais j'aime beaucoup. Et puis, tu veux-tu faire partie du projet de Midas Touch? Et là, j'ai fait partie du projet de Midas Touch, qui est un collectif. Et là, j'étais accompagné par un auteur à Londres qui m'accompagnait dans l'écriture de mon chapitre. Et puis, fait que j'ai écrit un chapitre, et puis j'ai été corrigé par cette personne-là. Et le livre a sorti. 6 mois après le moment où je m'étais fixé l'objectif de 4 mois. Donc, le livre est sorti 2 mois plus tard que la date que je m'étais fixé de 4 mois. Et à la sortie du livre, c'était un best-seller, puisque tous les livres de Joe Vitale qui sortent, c'est des livres à succès. Donc, ça a été l'espèce de... Pour moi, ça a été une grande leçon d'humilité, dans le sens que la vie est plus forte que nous. Puis la vie, l'univers met sur notre chemin les choses qu'on a besoin. Il s'agit d'y croire puis de faire les actions qu'on a besoin de faire pour...
Mais d'ouvrir les yeux aussi, hein? Puis rester alerte puis d'ouvrir les yeux.
Oui, mais de passer à l'action surtout, parce que je connais tellement de monde qui m'ont dit « Ouais, moi, il m'a déjà arrivé des affaires incroyables, d'opportunités, mais ils n'ont jamais passé à l'action face à cette opportunité-là. » Moi, j'aurais pu dire « Ben voyons, il ne me choisira jamais. » C'est facile de dire « Mais non, mais je suis un francophone, je ne sais pas écrire, je fais des fautes. »
C'est au Québec.
Ben oui, c'est je suis qui, moi, pour que Joe Vitale me choisisse? Non, moi, j'ai écrit en étant un peu baveux, puis en étant un peu...
Sûr de toi.
Ouais. Fait que, tu sais, ça a été un message très, très, très beau pour moi dans la vie. Puis après ça, mais ça m'a donné un élan incroyable en me disant, OK, mais wow! Après ça, j'ai foncé, puis là, j'ai suivi Tony Robbins pendant 3 ans, un peu partout en Amérique du Nord. Donc, j'ai dépensé des centaines de milliers de dollars. J'ai fait toutes les formations de Tony Robbins. Je fais partie de la Master University de Tony Robbins. J'étais un coach certifié. J'ai été coaché personnellement par Tony. Après ça, j'ai passé par l'école de Firewalking Center en Californie où je suis allé tout ça me chercher mes connaissances au niveau de l'apprentissage par l'expérience avec la marche sur le feu. Mais je fais des marches sur le feu, mais je fais aussi casser des flèches avec la gorge, casser des morceaux de bois à main nue. Jouer avec des boules de feu, marcher sur du verre cassé. Donc, toutes des choses qui amènent les gens à affronter des peurs pour grandir et passer dans l'action. Fait que moi, j'aime beaucoup amener les gens dans l'action pour venir intégrer à l'intérieur d'eux ce qui se passe.
On va passer un peu, si vous le permettez, aux questions des internautes. Il y a Daniel Amirada qui dit que tu as de belles valeurs. Et elle te laisse un message. Là, je te laisse lire, mais qu'avec mon accent.
Bonne vie, oh, si. Mañana le Costa Rica, si.
Il l'a compris. Elle dit aussi quel beau parcours avec Tony Robin.
Merci.
Puis, dans les personnes qui nous écoutent, ben moi, je veux saluer. Il y a Lina Boivin qui nous fait un petit coucou. Il y a Gilles Ludon, Isabelle Bouchard, si mon amie Cynthia Tardif qui nous écoute. Quand tu écoutes Jean-Pierre, il y a un chapitre qui est très important, qui est les émotions et l'état d'esprit. Puis dans les émotions et l'état d'esprit, tu dis qu'ils sont influencés par trois éléments. Il y a le physique, ton corps, ton focus et ton langage. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ces trois éléments, s'il te plaît?
Oui, c'est le triangle émotionnel que j'ai dans le cou ici, comme vous pouvez voir, j'ai toujours avec moi. Moi, ça m'a beaucoup aidé suite à mon opération. C'est quelque chose que j'ai appris de Tony Robbins, c'est la triade. Lui, il appelle ça la triade. Moi, j'ai adopté ça à ma façon à moi. Parce que j'aime prendre les choses que j'apprends des autres, puis je les amène à ma façon. Puis j'ai beaucoup mélangé. Moi, j'ai suivi Joe Vitale, Tony Robbins, j'ai suivi Brandon Bouchard, j'ai fait des formules, puis j'ai développé mes propres façons de faire.
Tu rajoutes tes épices?
Ouais, c'est ça, qui me parle à moi. Et puis, j'aime beaucoup l'épice. Moi, je suis convaincu d'une chose, c'est qu'on est tous des êtres d'émotion. Les êtres humains, on est des êtres d'émotion et on crée nous-mêmes nos émotions. Et c'est drôle parce que ma conférence s'appelle « Maîtrise tes émotions et tes peurs ». Et les premières fois que je suis allé en Europe avec cette conférence-là, les gens me disaient « Non, mais Jean-Pierre, tu ne peux pas appeler ta conférence comme ça. » Je me disais « Pourquoi? » Mais on ne peut pas maîtriser nos émotions, on doit accueillir nos émotions. Et là, je dis, ouais, c'est beau, mais moi, on peut accueillir. Moi, j'ai aucun problème, j'accueille mes émotions. Mais moi, je ne veux pas être la victime de mes émotions. Je veux être le maître de mes émotions. Moi, je veux décider comment je me sens à chaque jour de ma vie. Je ne veux pas que mes émotions décident comment je me sens par rapport à ce qui m'arrive dans ma vie. C'est drôle parce que je me suis fait dire ça tellement souvent en Europe, puis je ne me suis jamais, moi, changé mon nom de conférence. Et puis, donc, moi, ce que je suis convaincu, c'est qu'on crée nos émotions par rapport au langage qu'on utilise. Donc, les mots et les questions qu'on se pose déterminent comment on se sent face à un événement. Bien, où on met notre attention détermine l'énergie qui remonte à l'intérieur de nous, puis le sentiment positif ou négatif. Et la physiologie, comment on se tient, comment on bouge, énormément, c'est pas le plus d'impact sur nos émotions. Donc, on est toujours capable de changer l'état d'esprit dans lequel on est en faisant un changement drastique dans un des trois éléments et de se ramener dans le bon état d'esprit.
Donne un exemple.
Bien, exemple, c'est qu'on est, c'est toujours des schémas qui nous amènent dans un état d'esprit X, Y, Z. Donc, mettons, quelqu'un qui tombe souvent dans la colère, bien, il y a un schéma qui l'amène vers la colère. Puis le schéma, il est bâti de trois éléments. Son langage, son focus et sa physiologie. Donc, mettons un exemple concret. Quelqu'un qui tombe dans la colère, des fois, il va commencer par se serrer les poings. Parce que physiologiquement, il va serrer les poings. Puis, il va commencer à changer son langage. « Oh, ben maudit, il va sortir des sacs québécois. » Il va changer son langage. Il va commencer à dire « Mais pourquoi c'est à moi que ça m'arrive, cette affaire-là? » Il va se mettre à focusser sur le négatif. Et là, il va tomber en colère. Mais si tu es capable d'intervenir au début de ton schéma en disant « Tu vois, non, je ne vais pas là. Oh, tu viens de casser le schéma qui t'amène dans l'émotion négative. » Donc, tu as toujours le pouvoir de changer le schéma qui t'amène vers une émotion négative, un état d'esprit négatif. Donc, tu peux créer, en étant conscient, l'état d'esprit dans lequel tu veux. Moi, à chaque moment de ma vie, ma plus grande joie, c'est d'être conscient à chaque moment comment je me sens. Donc, je porte attention tout le temps au langage que j'utilise, vers où je mets mon attention, puis comment je me tiens, parce que ça a un impact. Si tu tiens toujours les épaules par en dedans, que tu respectes les petites respirations, tu vas te finir par te sentir dépressif, parce qu'une personne dépressive a une physiologie refermée, mais si tu es toujours refermé, tu vas te sentir dépressif, tu vas te sentir mal. Donc, ça a beaucoup d'impact. Comment on se bouge, comment le langage qu'on utilise. Et quand on comprend ça, c'est de toujours être conscient de ça à chaque instant de notre vie. C'est hallucinant, les changements. Puis moi, je le vois avec les gens avec qui je travaille. Il y en a qui font des grands, grands changements parce que j'ai une espèce de grille. Je dis, OK, porte attention trois fois par jour. Comment tu te sens? Puis pourquoi tu te sens comme ça? Et là, on découvre les schémas qui nous amènent à nous sentir et à être dans un mauvais état d'esprit. Et là, on est capable de décider de changer. Et souvent, c'est le langage qui, souvent, on parle en mal de nous-mêmes. On dit, oh, je suis donc bien con d'avoir fait ça. Oh, je ne serai jamais capable de faire ça. Mais si tu te poses des questions négatives et fermées, tu n'arriveras jamais à quelque chose de positif. Exemple concret. Deuxième exemple.
si je me pose toujours la question, pourquoi ça m'arrive toujours à moi? Pourquoi ça m'arrive toujours à moi? Probablement, je me referme de façon physiologique. Pourquoi ça m'arrive toujours à moi? Je me referme. Et avec une question comme pourquoi ça m'arrive toujours à moi, mon cerveau est toujours là pour me répondre et me prouver que j'ai raison. Pourquoi ça m'arrive toujours à moi? Mais parce que tu es un connard, tu ne prends pas les bonnes décisions et tu ne fais pas ce que tu devrais faire. Mais si au lieu de me poser la question pourquoi ça m'arrive toujours à moi, je me pose la question qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation? Je suis dans l'ouverture et là, mon cerveau va essayer de me trouver des solutions. Donc, c'est plein de choses qui rentrent en ligne de compte, mais le langage, la physiologie et le focus que vous mettez dans un moment X, Y, Z déterminent comment vous allez vous sentir. Donc, quand on comprend ça qu'on est capable d'intervenir, on peut changer comment on se sent. Donc, on peut être dans le meilleur état d'esprit possible toujours. Ouais. Une de mes formations, c'est soit toujours dans le bon état d'esprit. Pourquoi pas? Pourquoi pas?
Puis, Lolita, j'avais une question pour toi.
Oui.
Savais-tu qu'on a un Google intérieur en nous?
Un Google intérieur en nous? Oh non, celle-là, je ne l'avais pas vue.
Oui, ça s'appelle même le système d'activation réticulaire.
Exact.
Que tu appelles le SAR. S-A-R.
Oui.
Explique-nous ça. Explique ça, ça m'intrigue.
Ah, moi, j'ai lu le chapitre.
C'est étonnant. On a tous à l'intérieur de nous un truc en arrière de la nuque connecté sur notre cerveau qui s'appelle le système d'activation réticulaire et qui a pour but de te montrer ce qui est le plus, pour faire ça simple, là, pour pouvoir faire le chapitre au complet, mais le but du SAR, c'est de te montrer ce qui est vraiment important pour toi. Parce qu'on est tellement bombardé d'informations dans notre vie. On est incapable de gérer tout ce qui se passe alentour de nous, toute l'information que l'on reçoit. Et le système d'activation réticulaire, il est responsable de te montrer ce qui est important pour toi. Et comment il détermine qu'est-ce qui est important pour toi par rapport aux questions que tu te poses et vers où tu mets ton attention. Et moi, je suis convaincu d'une chose. C'est que le système d'activation réticulaire est responsable de mon best-selling livre avec Joe Vitale. Parce que pour moi, à ce moment-là, ce qui est devenu important, c'était de trouver une façon de devenir un auteur à succès. Donc, je me posais toujours la question, comment je vais faire pour réussir à faire ça? Et je mettais toujours mon attention là-dessus. Donc, mon cerveau était à la recherche de la réponse pour moi. Et le système d'activation réticulaire, ce qu'il fait, c'est qu'il va mettre sur ton chemin les bonnes personnes, la bonne article. Tu vas les voir parce que c'est important pour toi, puis ton cerveau va te permettre de les voir. Chose que tu ne verrais peut-être pas si tu ne mettais pas ton attention là-dessus. Exemple, des fois, tu es dans un restaurant et tu entends la personne qui parle deux tables plus loin parce qu'elle parle du sujet que tu as envie d'entendre parler, puis c'est peut-être la personne qui peut t'aider à devenir.
Ouais, c'est puis vrai.
Un exemple concret qui est drôle, c'est qu'il y a une année, il y a 3 ou 4 ans, je me suis acheté un nouveau véhicule, un VUS. Lincoln noir. Là, je suis arrivé dans le garage, j'avais un super Lincoln noir, les vitres teintées, tout ça. J'ai dit, waouh, il est beau, j'en ai jamais vu comme ça, il n'y en a pas ici, je le veux. Je l'ai acheté. Et là, je vais aller chercher le lundi d'après, puis là, je pars avec mon Lincoln, tout fier, le mec. Puis là, il y en a partout. Je ne suis pas le seul, il y en a partout. J'arrive à un coin de rue, j'en vois un là. Mais avant, ce n'était pas important pour moi, mon cerveau ne me montrait pas ces choses.
Non.
Une fois que c'est devenu important pour moi, je me suis mis à les voir partout. Et ça, mais quand on comprend ça et qu'on est capable de mettre l'énergie à la bonne place, puis nos intentions et nos questions et notre focus sur qu'est-ce qu'on veut vraiment le plus précisément possible, bien, notre cerveau travaille pour nous amener les réponses qu'on a besoin. Fait que comme Jean-Luc disait, c'est comme un gros Google qu'on a à l'intérieur de nous. Plus précis tu seras dans tes questions, plus... Plus ciblé, plus intensif tu seras dans tes recherches, plus que tu vas avoir de contenu en lien avec ce que tu recherches exactement. Et une fois qu'on met ça en application, c'est extrêmement puissant, c'est extraordinaire. Puis ça, c'est en lien direct avec le triangle émotionnel, comme Jean-Luc nous parlait tout à l'heure, parce que si je fais attention, parce que les questions que tu te poses déterminent vers où tu mets ton attention, donc vers où tu mets ton focus. Donc, les questions que je me pose déterminent vers où je mets mon focus. Donc, c'est les choses les plus importantes pour moi. Et donc, ça l'active mon système d'activation réticulaire à rechercher à l'entour de moi toutes les choses qui peuvent m'aider à atteindre ce but.
Puis, pour répondre aux questions, il y a les livres de Joe Vitale sont disponibles sur BeliveauEditeur.com, tout comme les livres de Jean-Pierre Beaudoin. Et on nous demande justement, puis on va en parler, c'est Daniel qui nous dit où sont tes prochaines formations. Tu as deux formations, le 6 et le 7 janvier 2024.
Oui, c'est un week-end intensif de deux jours. Donc ça, c'est mon programme qui s'appelle « Vie ta meilleure année », qui est un programme d'accompagnement annuel qui inclut un week-end de deux jours où j'amène les gens à se fixer des objectifs concrets dans les 8 sphères de leur vie et à faire le bilan de leur dernière année pour faire de 2024 leur meilleure année à vie. Donc, quand tu prends le temps de t'asseoir et regarder d'où tu viens pour savoir vers où tu veux aller et que tu te fixes des objectifs précis sur tes objectifs, sur tes sphères de vie, mais tu as beaucoup plus de chances d'aller les atteindre. Donc, je ne crois pas beaucoup aux résolutions du 31 sur le coin du bord avec le beau-frère Marcel. Je crois beaucoup au moment de s'asseoir pendant deux jours et de travailler, de se poser les bonnes questions pour activer le système d'activation réticulaire et activer, bien sûr, tout ce que tu as à l'intérieur de toi puis prendre des décisions que tu veux créer.
Puis pour les personnes qui veulent marcher sur le feu, il va y avoir un événement au Québec et un en France l'année prochaine. Je te laisse dévoiler les dates pour les personnes qui veulent tester de marcher sur le feu.
Oui. Je ne suis pas capable.
Exact. Puis c'est important ce que tu dis parce que j'ai pris une décision cette année. Je ne ferai que deux événements publics avec Marche sur le feu. Une au Québec, une en Europe. Normalement, j'en fais des dizaines. Donc, je vais faire le 1er juin à Sherbrooke avec au Théâtre Centennial. Et je ferai le 19 octobre à Lyon. Donc, il y a 500 places à Sherbrooke, 350 places à Lyon. Et je peux annoncer aujourd'hui, je viens de créer ça, ça a été même pas annoncé nulle part, avec le code promo Noël77, vous avez bénéficié d'un rabais de 50% sur l'achat des billets sur chacune des dates. Et ça sera les seules dates que je ferai en 2024 en France et au Québec.
Puis, tu as aussi un projet d'écriture. Mathieu a ça, tu as discuté avec Mathieu Béliveau. Ouais, donc, un projet d'écriture pour 2024.
Oui, c'est un livre qui aurait dû sortir cette année, mais que j'ai repoussé parce qu'il y a des choses qui ont monté à l'intérieur de moi, puis je suis en train de rechanger tout ce que j'ai écrit. Donc, c'est un livre qui est vraiment basé sur le potentiel. J'ai un peu de misère avec le mot potentiel, mais c'est comment activer toutes les ressources extraordinaires qu'on a à l'intérieur de nous. On a à l'intérieur de nous des choses extraordinaires et j'ai envie de donner des outils aux gens pour pouvoir activer tout ça de plus en plus. Donc, je travaille sur ce livre-là depuis déjà 3 ans et j'ai très hâte de le sortir. Il va sortir à l'automne 2024.
Oh, est-ce que tu as son titre?
Non, bien, le titre a changé tellement souvent. Donc là, je m'avance plus sur le titre.
Ça va être un titre qui va être dévoilé à peu près au mois de septembre, octobre, à peu près.
Le titre devrait sortir. D'après moi, le titre va sortir après mon voyage au Costa Rica. Donc, je reviens au mois de mars au Québec et à ce moment-là, je pense que le titre va être en place. Parce que quand je vais au Costa Rica, pour moi, c'est une déconnexion, mais une reconnexion. C'est comme un moment où je déconnecte, mais je reconnecte beaucoup. Puis c'est souvent là que je suis plus à l'écoute à l'intérieur de moi de plein de choses. Et je suis convaincu que le titre va arriver un matin.
C'est là que ça fusionne.
Avec mon café sur le bord de la plage. Je vais dire, et voilà le titre. Je t'écrirai ça, Jean-Luc. Voici mon nouveau titre. Voilà.
Mais justement, on parle de titre. Il y a Lolita qui va te faire une petite surprise. Oui. Elle a créé
un petit mot de Loli, un sucre à crème pour les sentiments. J'essaie toujours d'aller dans les valeurs ou dans ce que l'auteur enseigne. Alors moi, ce que je t'ai écrit, mon cher Jean-Pierre, c'est « La peur bouscule les hommes pour les empêcher de sentir de quoi ils sont capables, alors que la volonté devient un bouclier pour leur permettre d'avancer. »
C'est magnifique. C'est magnifique. C'est tellement vrai. Tu sais, la peur, c'est le pouvoir de l'imaginaire. La peur, c'est notre cerveau qui nous joue des tours. Mais on a tous le courage à l'intérieur de nous de réussir tout ce qu'on veut vraiment dans la vie. Quand on s'écoute puis on ose activer notre plein potentiel.
La volonté.
Oui, la volonté.
tout est là. Mais il s'agit d'y croire.
Tu peux l'utiliser dans ton prochain livre.
Oui, mais Lolita, tu vas-tu m'envoyer ce petit message-là?
Oui, je vais te l'envoyer pour que tu t'en serves, promis. Je te l'envoie en Messenger après.
Super, merci beaucoup, Lolita.
Tu peux l'utiliser dans ton prochain livre. Ne demande pas de droit d'auteur, c'est gratuit. Bon, là, c'est son chum qui appelle.
Il dit, ça fait une heure, c'est assez.
Ça fait une heure. Monte en haut. Merci beaucoup, Jean-Pierre, d'avoir pris le temps de passer cette heure avec nous. Ça a été un grand plaisir. On s'est vu au Salon du Livre de Montréal. Puis j'ai été très heureux de te croiser au Salon. Puis je sens qu'on va se recroiser dans les salons l'année prochaine.
Exact.
J'ai bien l'impression qu'on va se recroiser souvent dans les salons.
Sûrement.
Ouais, je suis convaincu. Je vous dis un gros merci. J'ai vraiment apprécié mon moment avec vous. Je vous dis merci. Vous êtes des gens extraordinaires. Et puis, je sens vos bonnes valeurs et votre belle énergie. Et merci beaucoup. Ça m'a touché d'être reçu par vous deux. Et j'ai hâte de vous revoir. Jean-Luc, j'ai bien aimé notre première rencontre qui a été courte, mais l'énergie était bonne.
Oh ouais, l'énergie était bonne.
Tu es très inspirant, Jean-Pierre.
Ben merci Lolita, c'est très gentil. J'ai hâte de te voir en personne, te prendre dans mes bras et te faire un gros hug.
Un bon gros câlin.
Hey, moi, il ne m'a pas pris dans ses bras. Hein, juste pour
dire. Ah ben là.
Non, mais.
Donne-moi du sucre à crème pour le cœur.
Ouais, c'est ça. You ton sucre à crème, Jean-Luc. Là.
J'en ai fait. Merci tout le monde de nous avoir écoutés. Vous étiez nombreux encore une fois en ce mercredi. Je vous donne rendez-vous. N'oubliez pas le 20 décembre. Mercredi prochain pour un spécial Béliveau Rencontre d'une durée de 90 minutes. Je peux déjà vous annoncer que Annabelle Boyer sera là et Sonia Alain sera là. Et on va avoir d'autres surprises qui vont s'ajouter avec des autrices qui vont s'ajouter à l'équipe
et des primeurs
de Béliveau. Puis vous allez voir des belles primeurs. Puis vous allez avoir aussi le titre de mes trois prochains livres qui vont sortir l'année prochaine chez Béliveau. Donc, trois livres d'un coup chez Béliveau.
Trois,
ça va être une grosse année littéraire. Donc, vous allez avoir, et Lolita, deux livres. Donc, vous allez avoir les primeurs des titres et des sujets qui vont être dévoilés. Donc, merci tout le monde.
Joyeux fête à toi, Jean-Pierre, et bon séjour au Costa Rica.
Merci à vous. Joyeux temps des fêtes. Et comme on dit au Costa Rica, pour la vida.
Oh, pour la vida.
Merci tout le monde. On se dit à mercredi prochain. Salut.
Ciao.